Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Il y a un peintre belge qui s'appelle James Ensor qui a peint une peinture qui s'intitule « L'entrée de Jésus à Bruxelles ». Et on pourrait imaginer que ça se place sur la grande place de Bruxelles, c'est coloré, il y a plein de monde, il n'y a pas de masque, il n'y avait pas de Covid à l'époque, il y avait beaucoup de monde, on se bousculait, on peut imaginer qu'il y avait une baraque à frites dans le coin, qu'il y avait des tonneaux de bière pour finir la fête. C'est coloré, vous ne voyez pas dans les détails, mais c'est une belle fête. Pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, il n'y a pas de carrosse décorée, mais il y a un ânon, il n'y a pas de confetti, mais il y a des branches de palmiers, personne n'est déguisé, mais il y a des vêtements qui sont jetés de ci, de là. Il y a aussi des acclamations, il n'y a pas d'orchestre, mais après tout, ce n'est pas si mal comme parade. Seulement, il y a un problème dans l'histoire. Il y a un problème dans l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y a en fait un grand malentendu. Comme il y a eu beaucoup de malentendus avec les disciples précédemment dans l'évangile de Marc, ces disciples qui suivaient Jésus. Par trois fois, Jésus annonce sa mort sur la croix et par trois fois, les disciples ont une réponse décalée, une réponse qui montre qu'il y aurait comme un malentendu. Dans Marc 8, il annonce sa mort, Jésus annonce sa mort pour la première fois, il parle de sa mise à mort par les autorités religieuses, il en parle très clairement, et c'est Pierre qui va réagir, il va lui dire « Seigneur, ne parle pas trop de la mort, parce que ce n'est pas bon pour ton image, les gens ne vont plus te suivre. » Il y aurait comme un malentendu. Et dans Marc 9, Jésus, une deuxième fois, parle de sa mort encore en Galilée, il se consacre à ses disciples et il parle de la mort du Fils de l'homme par la main des hommes et la réaction des disciples, il change de sujet, il se demande qui sera le premier dans la hiérarchie du royaume. Moi, je serai le premier, pas toi. La troisième fois, en Marc 10, Jésus prend de nouveau les 12 à part et leur dit ce qui allait arriver avec en plus quelques détails, la réaction des disciples tout de suite après, alors que Jacques et Jean trouvent que c'est le bon moment pour que Jésus leur réserve des places d'honneur quand il sera dans sa gloire. Si je pouvais être ton bras droit dans ta nouvelle société, dans ton nouveau royaume, ce serait bien, dit Jacques et Jean. C'est absolument incroyable, mais à chaque fois que Jésus annonce sa mort, il y aurait comme un blocage. Il semblerait que les disciples n'arrivent pas à comprendre. Ils ont bien entendu, mais ils n'ont pas compris. Il y aurait comme, non pas un malentendu, mais comme on dit en anglais, un misunderstanding, une mauvaise compréhension des choses. Ils ne pigent pas, ils ne comprennent pas. Et ici, pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, le malentendu concerne la foule. Et il se concentre sur deux détails de l'histoire. D'abord l'ânon, ensuite les vêtements. L'ânon d'abord. L'ânon, c'est quelque chose que Jésus a voulu, qu'il a préparé quelques heures avant, alors qu'il n'était encore qu'en banlieue de Jérusalem. Il a demandé à quelques disciples d'aller en reconnaissance et de leur trouver un ânon. Et tout était prêt. Et les gens ont répondu comme c'était prévu, et les disciples ont répondu comme c'était prévu, et les gens ont laissé faire et leur ont donné l'ânon. Jésus a voulu cet ânon, il rentre sur cet animal, ce choix est volontaire de la part de Jésus qui veut rappeler le prophète Zacharie qui disait quelques siècles à l'avance, et Olivier nous l'a lu tout à l'heure, on le relit. Dans ce, où pousse des cris de joie, Jérusalem, regarde ton roi, viens vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre. Et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Et Jésus a préparé ce geste pour poser un signe fort, pour dire qu'il est le Messie et qui vient à Jérusalem pour briser l'arc de la guerre, pour établir la paix. Il vient humblement, pas de chameau, pas de caravane, pas de trésors dans les coffres, pas d'armes dans les bagages, pas d'escorte, juste une bande de disciples plus ou moins minables. Et il vient sur un ânon, et le texte précise, le petit d'une ânesse. Et j'imagine que Jésus, que les pieds de Jésus même touchent par terre sur cet ânon. Il vient humblement, il est le Messie. Et puis, il y a les vêtements que l'on jette sur le chemin que prend Jésus, et ce geste accompli par la foule est tout à fait spontané, et on pourrait s'en réjouir, mais en même temps, il semblerait que ce geste vient tout à fait à l'opposé du signe de l'ânon que Jésus voulait. Il faut savoir que la seule référence que nous avons de vêtements jetés aux pieds d'une personne nous vient de l'Ancien Testament, du deuxième livre des rois, et c'est sous les pieds du roi Jéhu. Le roi d'Israël, Jéhu, qui a été mandaté par Élisée le prophète pour poursuivre la famille d'Akab, d'Akab et Jézabel, une famille sanguinaire, une famille autoritaire, une famille qui doit disparaître. Et Jésus a été nommé pour faire disparaître cette famille. Il va donner l'onction pour cette mission. Et les proches de Jéhu vont avoir ce geste étonnant. Alors chacun d'eux se hâta de prendre son vêtement et de le placer sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompe et dirent « Jésus, Jéhu est roi. » Et puis Jéhu va prendre son char de combat, et il va prendre son arc, et il va partir en mission. On a pris une photo de lui en pleine action, et on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a de la violence, et on n'a pas envie d'entendre parler de violence par ces temps qui courent. Mais il nous faut juste savoir que Jésus est un violent et un vainqueur. Et il va voler de victoire en victoire. Mais avant de partir en mission victorieuse, ses amis vont mettre ses vêtements sous ses pieds. Et comme pour Jéhu, la foule va mettre des vêtements sous les pieds de Jésus alors qu'il entre à Jérusalem. Est-ce que les gens pensent que Jésus va faire le grand nettoyage et qu'il va débarrasser tous les étrangers du plancher, et les Romains en particulier, qu'il va voler de victoire en victoire contre les occupants? Est-ce que les gens pensent ça quand ils déposent leurs vêtements sous les pieds de l'âne que porte Jésus? Eh bien oui, on peut penser qu'une majorité pense cela. On a des textes écrits entre les deux testaments, dans cette période intertestamentaire de 400 ans. Par exemple, le psaume de Salomon qui dit « Regarde, Seigneur, et suscite-leur un roi, fils de David, et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent. » Il y a réellement une attente partagée par un grand nombre, et il le montre en reproduisant ce geste des amis de Jéhu. Il vient victorieux. Mais ce geste est complètement à l'opposé du signe de l'ânon posé par Jésus, voulu par Jésus. Les deux signes, celui de l'ânon et celui des vêtements, sont en totale contradiction. Nous sommes en plein malentendu en ce dimanche des Rameaux. Et ce malentendu n'est pas un petit quiproquo qui pourrait faire rire, c'est un grand malentendu. On peut même dire que c'est un malentendu qui tue. C'est un malentendu qui va tuer Jésus. La foule qui met ses vêtements sous les sabots de l'ânon en criant « Hosanna » dira quelques jours plus tard, quand Pilate va demander que faire de cet homme encombrant qu'est Jésus, la foule va répondre « Crucifie, crucifie-le ». Et Pilate, l'homme qui se lave les mains très souvent, va laisser faire et va mener Jésus tout droit vers la crucifixion. Alors, on ne sait pas si c'est la même foule qui crie « Hosanna et crucifie-le », parce qu'on se dit que l'écart entre justement « Hosanna » qui veut dire « bravo » et « crucifie-le » qui veut dire « crucifie-le, mais mettons-le à mort » est bien trop grand pour que l'on puisse penser que, qu'il s'agisse des mêmes individus qui prononcent ces paroles à quelques jours d'intervalle. C'est pas possible. En tout cas, moi, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais dit ça à ces quelques jours d'intervalle. Mais ça pourrait être de la même foule. Parce que les foules sont habituées au grand écart et il est tout à fait possible dans l'histoire des mouvements de foule que l'on dise Hosanna le dimanche et que l'on crie à mort le vendredi. C'est tout à fait possible que la foule ait retourné la veste qu'elle avait déposée sous les pieds de Jésus et qu'elle l'a fait d'autant plus vite qu'il y avait à l'origine un énorme malentendu. Elle s'attendait à une victoire à la GU, elle voit une arrestation, une condamnation, un échec lamentable. Et là, il n'y a pas seulement un malentendu, il y a une énorme déception. Et il n'y a pas de plus versatile qu'une foule déçue dans ses attentes. Et on le voit tous les jours dans les actualités et en cette période électorale, on joue sur la déception pour transformer ou pour changer la vie des gens. On change d'avis comme de vêtements quand on est déçu par les événements. Et on pourrait parler un instant du problème de la foule. Quelqu'un faisait remarquer, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est intéressant en tout cas, que l'homme a été créé individu. À la différence des animaux qui sont créés espèces, je parle du livre de la Genèse, des origines, Dieu a créé les animaux, les crocodiles, les moustiques, les hippopotames, mais il a créé l'humain au singulier. Homme et femme, il les créa. En tant que personne, ayant conscience de leur singularité. Et le problème avec la foule, c'est qu'elle est plus qu'une juxtaposition d'individus uniques et singuliers, une foule a une dynamique propre. Le pluriel des foules réveille l'instant d'espèce, de meute, de horde, un peu animale. Et il faut se méfier des mouvements de foule, ou en tout cas ne pas être dupe. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été au Stade de France pour voir France-Galles. C'était pas la musicienne, c'était France-Pays de Galles, c'était du rugby. Et on a chanté à 80 000, on a chanté la Marseillaise. Et moi, je ne suis pas spécialement patriotique, mais j'étais quand même impressionné. 80 000 personnes qui chantent la Marseillaise. Alors, c'était que du rugby, heureusement. Et on ne va pas se battre pour du rugby. Mais vous imaginez un rassemblement fasciste avec des chants, avec des costumes, avec des uniformes. Attention aux foules, attention aux mouvements de foule. Ne pas être dupe, on ne peut pas toujours les éviter, mais il faut savoir s'en retirer si on ne veut pas vivre et mourir sur un malentendu. Alors, le malentendu et nous. Et en ce dimanche des rameaux, ce dimanche particulier, nous pourrions nous poser une question singulière. Comment est-ce que j'accueille Jésus aujourd'hui? N'y a-t-il pas parfois des malentendus dans mon attente, ou du moins une certaine ambiguïté, même si je chante « Hosanna » et que je peux le chanter, c'est une parole vraie, bravo, je l'ai déjà dit, une parole juste, mais là, la question de savoir à qui je dis « Hosanna ». Jésus demande à un moment à ses disciples dans Matthieu 16, « Et vous qui dites-vous que je suis, qu'est-il pour moi, Jésus ? Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit ? Quelqu'un avec des super pouvoirs, j'aime bien cette image, Jésus qui raconte à des super-héros, et voilà comment j'ai sauvé le monde, et qui ressemble un petit peu à ces super-héros qui me guérit de tous mes problèmes, qui me donne du succès dans toutes mes entreprises, qui va me permettre d'être victorieux dans ma vie. Est-ce qu'on dit bravo, Hosanna, à ce Jésus-là? Ce Jésus qui me fait voler de victoire en victoire? Et ce ne sont pas des attentes mauvaises, on peut même trouver des appuis bibliques pour ces attentes, et on retrouve la même ambiguïté que celle de la foule massée à Jérusalem pour l'arrivée de Jésus, et on retrouve peut-être chez soi ce même malentendu, un malentendu qui tue, qui a tué Jésus, mais qui va tuer aussi la foi, qui ne va pas survivre au vendredi saint, au vendredi de Pâques. Car si nous croyons à un Messie victorieux, à la GU, ça nous renvoie à un Dieu que nous ne retrouvons que dans les sommets, que sur les sommets et que dans les victoires de notre histoire. Ça nous renvoie à un Dieu qui nous fait gagner, qui comble nos désirs, qui nous accorde la prospérité. Et ce Dieu est séduisant et nous comprenons qu'il attire les foules. Et ce Dieu nous parle tant que nous sommes du côté des vainqueurs et tant que les succès sont dominants dans notre histoire. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là a à nous dire quand nous rencontrons l'échec, quand nous rencontrons le deuil, quand nous rencontrons la prière qui n'est pas exaucée, quand nous rencontrons la maladie, quand nous rencontrons le divorce, quand nous rencontrons la persécution, quand nous rencontrons la pandémie, quand nous rencontrons la guerre à nos portes, quand nous rencontrons l'incertitude, quand on a notre souvenir. Qu'a-t-il à dire ce Dieu de victoire ? Pas grand-chose. La foi qui repose sur cette lecture dure aussi longtemps que durent nos succès, c'est-à-dire pas très longtemps. Pour la foule de Jérusalem, elle n'a pas dépassé quelques jours. À Pâques, le malentendu avait non seulement tué Jésus, mais elle avait tué aussi la foi de la foule. De l'autre côté, il y a Jésus humble qui rentre dans Jérusalem, assis sur cet anon qu'il a choisi, qu'il a préparé comme un symbole de son humilité. Et Jésus ne vient à Jérusalem ni dans nos vies pour voler de victoire en victoire, mais pour vivre un échec. Celui de la mort sur la croix, une abomination pour tous à cette époque-là, que ce soit les Juifs, les Grecs ou les Romains. Jésus, sur son anon, c'est le rejet de la foule, c'est l'abandon de tous, c'est toute la faiblesse de la croix. Jésus rentre à Jérusalem non pas pour gagner quelque chose, mais pour perdre quelque chose, pour perdre sa vie, pour vivre la perte. Jésus rentre à Jérusalem prêt à tout perdre, humblement. Le dimanche des Rameaux, Jésus, assis sur un anon, vient sur notre terrain, vient à notre niveau. Il vient au niveau de notre fragilité d'homme et de femme. Et il vient au niveau de notre souffrance. Il vient au niveau de nos échecs. Il vient là où nous avons échoué. Et à ce niveau-là, qui est le nôtre, au niveau d'en bas, Jésus nous dit quelque chose. Et Jésus nous dit qu'il partage nos souffrances. Jésus nous dit qu'il est là avec nous. Et mieux, qu'il prend ses souffrances avec lui et qu'il les prend pour lui, sur lui, et qu'il va en faire quelque chose et qu'il va donner sens à tout cela. Et la foi qui vient d'en bas, du bas de l'anon, qui vient de ce Jésus monté sur un anon, est une foi beaucoup plus solide que celle de la foule. Elle va résister à toutes les tornades de la vie. Elle n'est pas basée sur un malentendu qui tue la foi. Elle est basée sur cette vérité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu nous rejoindre là où nous étions, dans nos échecs, dans notre souffrance. Cette fois-là, elle va rester et elle va même dépasser le week-end de Pâques et elle le fera même dans la joie. Qui allons-nous accueillir ? Le Jésus victorieux sur son char d'assaut ou le Jésus humble qui vient sur son anon ? À qui allons-nous crier « Bravo, Hosanna » ? Et si nous profitions de ce dimanche des Rameaux pour lever tout malentendu, c'est toi, Jésus, dans la faiblesse évidente à la croix du Vendredi Saint que nous accueillons. Nous t'accueillons, toi, le roi serviteur, qui est venu jusqu'à nous pour donner sa vie, la vraie, celle qui dure jusque dans la vie éternelle. C'est à toi et à toi seul que nous voulons crier « Bravo, Hosanna ». Amen.